fait le spectacle Jérémy Janot.
Petit Zamzer qui avait bien souffert en début de la saison avec une défaite. Regardez Jérémy Janot, ça c'est l'image absolument incroyable. Le gardien de la SSE, Spider-Man Janot. Ah ça c'est l'image qui est très très forte. Regardez-le avec le public.
Bonjour les potonautes, voici l'interview de Jérémy Janot qui a eu la gentillesse de répondre à nos questions. Potocarré remercie Jérémy pour sa disponibilité et sa simplicité qui reflète le joueur que nous avons toujours connu à Saint-Étienne.
Salut Jérémy et merci de nous recevoir pour l'interview Potocarré. On va tout de suite commencer par s'intéresser un petit peu plus à toi. Et bah, ma première question, c'est de savoir où est-ce que tu vis aujourd'hui. Je crois que tu vis dans le Nord.
Ça va.
Et tu reviens souvent à Saint-Étienne du coup?
Quand on a... Ça m'est arrivé de monter par rapport à mes maisons, tout ça. Mais après, on n'a pas tellement de temps libre quoi, pendant la saison. Et en plus, quand moi j'ai du temps libre, mes enfants ont l'école, donc j'ai pas forcément. J'ai surmonté 3-4 fois, mais pas plus. Quoi.
C'est essentiellement pour les affaires, quoi.
Ouais, les affaires, ma maison à Chamazel. Voilà, bon après j'ai vendu le club 42, donc ça facilite les choses aussi. Donc, c'est. Voilà, après j'ai toujours ma maison à Chamazel et. Ça restera mon pied d'appel plus tard, quoi.
Ensuite, par rapport au confinement, alors comment t'as vécu, toi, le confinement, alors autant au niveau pro que perso? Parce que je suppose qu'au niveau pro, je pense que c'était un peu galère, quand même.
Bah alors, ce qui s'est passé, c'est que, bah justement, la réflexion, c'est que, au départ, vu que c'était que 15 jours de confinement, bah avec ma famille, on s'est dit, on va rester sur sur Valenciennes. Mais par contre, si dès le départ on avait su que c'était plus, on serait descendu à Chamazel, quoi. Mais bon, finalement, non. Là, les enfants, il y a l'école, il y a tout un tas de trucs qu'on n'a pas bougé. Après, au niveau professionnel, on est resté en contact avec les joueurs pour qu'ils restent actifs, pour qu'ils continuent à rester mobilisés au cas où ça devait reprendre, parce qu'il y a toujours eu des. Comment dirais-je, des petites.
Des incertitudes.
Des incertitudes. On ne savait pas sur quel pied danser. Et à un moment donné, ça pouvait reprendre, ça ne pouvait pas reprendre. Donc nous, on essayait de faire en sorte que les joueurs restent compétitifs. Et là, avec le coach, on a décidé on va aller voir cette semaine. Et on va voir comment ça va se passer par rapport à la fin de saison, pour bien clôturer la saison, quoi.
D'accord. Toi, t'as filé un programme particulier. Alors, t'as combien de gardiens aujourd'hui à Valenciennes?
Trois gardiens pro. J'ai trois gardiens pro. Et avec le préparateur physique, tout le monde avait un programme à faire. Donc, on avait laissé les GPS aux joueurs. Donc, chaque joueur était équipé de GPS et on avait en temps réel toutes leurs séances d'entraînement, quoi. Avec les distances, les fréquences cardiaques, l'intensité, tout ça. Mes gardiens pareil. Tous les jours on s'appelle, quoi. On a un groupe WhatsApp avec le gardien et on échange quotidiennement dessus, quoi. Après moi je faisais le reporting au staff, au coach. On les a pas laissés dans la nature. Ils ont bien bossé. Franchement, si on a un groupe sérieux, on a un groupe jeune, on a un groupe sérieux, ça régale.
D'accord, ça bosse.
Ouais, ça bosse, ouais, franchement, ouais.
Et au niveau perso, du coup? Donc, ouais, tu m'as dit que t'étais pas rentré, mais alors, on a pu te suivre un peu sur les réseaux sociaux, on a vu que...
Moi, j'en ai profité pour m'entraîner, hein, pour rester actif, parce que, j'allais tous les jours à la salle de muscu, une salle de muscu juste en bas de chez moi. Et là, comme elle était fermée, j'avais deux, trois petits accessoires, pas grand-chose, hein, j'avais deux haltères et un TRX. Par contre, j'ai pu m'entraîner correctement tous les jours assez assidûment et professionnellement, quoi, tu vois. J'ai rien lâché pour rester en forme, parce que je me disais, ouais, si ça reprend, pour moi aussi, je sois capable de repartir de plus belle et d'enchaîner les spécifiques.
Tes joueurs, ils te suivent sur les réseaux sociaux? Parce que peut-être que ça peut aussi leur donner de la motivation supplémentaire de voir que leur coach, finalement...
Ils me me suivre. Voilà, on se faisait des challenges. Des fois, eux, ils m'envoyaient des vidéos pour me dire, t'as vu, lui, ce qu'il a fait, lui, ce qu'il a fait. Non, non, non. Voilà, ils me suivent. Voilà, après, voilà, moi, j'aime bien. Après, c'est histoire de faire vivre le truc, quoi. Après, je me dis, si t'as des réseaux sociaux et que tu mets rien dessus, bah, autant rien. Voilà. Je te jure, c'est pas un côté narcissique ou quoi, tu vois. Tu vois, des fois, je fais des challenges, tu vois, j'ai pas un challenge. Il y a un mec qui fait 1000 pompes en une heure, j'ai essayé, tu vois, j'ai fait 1h17, quoi. Tu vois, j'ai mis plus que lui, mais je dis, putain, le gars, respect, quoi. Ben, voilà, ça permet de rester en forme, voilà, de se mesurer aussi à d'autres personnes que tu connais pas forcément, quoi. C'est intéressant, j'aime bien. Moi, si tu veux, comme moi, quand je vais regarder des vidéos d'autres mecs, ça me motive. Et je me dis, bah allez, peut-être que je vais en motiver quelqu'un. Quoi. Puis après, tu crées un cercle, et plutôt que de rester à regarder la télé, bah, moi, vous avez tous une heure de sport, une ou deux heures de sport par jour, quoi. C'est pas plus mal. Quoi.
Qui est pour le côté confinement. Et du coup, bah voilà, on va parler un petit peu plus. Avant de parler de synthé, on va continuer un petit peu sur toi et ton actualité. Savoir un petit peu, bah, est-ce que tu peux déjà nous parler de ta saison en tant que coach à Valenciennes? Un petit peu le parcours de Valenciennes dans le championnat. Et puis après, approfondir un petit peu plus sur ton rôle, tes ambitions, et puis qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine pour toi aussi, quoi.
Et donc, bah, nous, moi, quand je suis arrivé, quand le coach Olivier Guégan m'a appelé, donc on était voilà, à Valenciennes, dans un cycle de reconstruction. Le premier... La priorité du coach, c'était bon. Le club avait pris beaucoup de buts ces trois dernières saisons. Et il avait une réflexion sur le poste de gardien. Donc, voilà, il m'a demandé mon avis, on a discuté. Ensuite, on s'est rapidement positionné sur Jérôme Prieur, qu'on a fait venir. Ensuite, bah, la saison, le coach a su bâtir un groupe compétitif avec un état d'esprit extraordinaire. Je pense que tous ceux qui ont vu jouer à Valenciennes, ben, ils se sont fait plaisir. Voilà, on est une équipe avec du cœur, de l'engagement. On est vraiment, on lâche rien. L'image d'un match où on est mené 2-0 à la mi-temps contre Sochaux et on renverse tout en deuxième, on gagne 3-2. On a une sacrée valeur, on termine une meilleure défense du championnat. C'est important après trois saisons à plus de 60 buts encaissés par saison. Donc voilà, là on termine meilleure défense du championnat, et la victoire à Grenoble qui nous assure les 42 points à 10 journées de la fin, nous propulse 7e, et on attendait vraiment le sprint final des 10 derniers matchs pour jouer notre rôle d'outsider, quoi. Bon, après, la saison a été arrêtée, mais on était, voilà, on était vraiment dans les startings pour jouer ce dernier sprint, voilà, et les gens à Valenciennes se sont régalés cette saison. Alors que ça faisait pas mal d'années galère, et nous aussi, hein, sur le banc, il y a beaucoup de travail. Hein. Beaucoup de travail et tout, mais on s'est vraiment régalé. Donc après, c'est bon, toujours la saison prochaine. C'est toujours difficile de parler de la saison prochaine, mais on va déjà essayer de bien rattaquer, et de voir comment on va digérer cette post-période de Covid, j'ai envie de dire. Voilà, on va voir. Voilà, c'est inconnu un peu, c'est l'inconnu pour tout le monde. Mais on bosse déjà depuis pas mal de temps sur la saison prochaine, sur les planifications, sur les contenus d'entraînement, sur le recrutement. Et voilà, on va faire ce qu'on a fait l'année dernière, beaucoup de sueur, beaucoup de travail. Et on espère qu'on sera récompensé.
D'accord. Vous avez une date de reprise?
Ouais, on n'a pas encore déterminé. Avec le coach, on attend de voir, elles sont assez flexibles au cas où, par exemple, là pour l'instant les matchs sont programmés fin août, mais si c'est mi-août ou début septembre, on sera réajusté en conséquence.
D'accord. Et toi, ton rôle, alors, tu m'as dit que tu avais trois gardiens pro, est-ce que tu as aussi du coup un rôle au niveau de la formation, c'est-à-dire
non.
Est-ce que...
Non, non, non. Je m'occupe exclusivement des gardiens pro.
D'accord. Et toi, tes ambitions, t'en as mais il faut toujours en avoir, il paraît que c'est mieux.
Ouais.
Toi.
Moi, c'est toujours de continuer d'apprendre mon métier du mieux possible. Hein. J'essaie de parfaire mon bagage de coach. Voilà, j'ai un vécu de joueur, ok, mais bon, pour toujours être à l'affût des dernières méthodes d'entraînement, de ce qui se fait. Moi, je suis aussi beaucoup dans la supervision et dans l'analyse des gardiens, parce que voilà, essayer de trouver, des perles rares ou des gardiens forcément inconnus. C'est sûr que c'est facile aujourd'hui de regarder Everson et Ter Stegen et de dire que c'est le meilleur. Mais après, c'est d'essayer de trouver des mecs. Voilà, moi, j'aime bien ça. Je suis allé souvent en Belgique ou en Hollande voir des matchs. Voilà, j'étais toujours à Lille aussi pour les matchs de Ligue 1. Donc, j'essaie. Puis après, toutes les vidéos de Ligue 2, j'ai vu pratiquement tous les matchs pour la supervision. Donc, non, j'essaie de toujours m'améliorer et d'avoir un bagage d'entraîneur de plus en plus solide chaque année. Quoi. Et après, toujours être. Voilà, un adjoint du coach et de lui déblayer le terrain sur pas mal de choses, car il a énormément de choses à faire. Quoi. Si tu peux l'aider et le décharger sur un certain nombre de trucs, c'est du temps que tu lui fais gagner et que tu fais gagner à l'équipe.
Du coup, on va aller faire un petit tour du côté de Saint-Étienne. Puisque Poteau Carré, comme tu le sais, ben, on est un petit peu plus axé sur les verts. On va commencer par le Sphinx, qui est plus là. Comment tu peux nous décrire l'effet que ça t'a fait d'apprendre cette mauvaise nouvelle et puis nous expliquer un petit peu quelles étaient les relations que tu avais pu avoir avec lui quand tu étais à Saint-Étienne.
Ouais, moi je l'ai vu comme entraîneur quand il formait le duo avec Pierre Bellini une présence, un charisme extraordinaire. C'était quelqu'un qui nous chambrait pas mal, qui paraissait froid de nature, comme ça, quand vous croyez, mais qui était vraiment très gentil, très sympathique, qui connaissait le foot sur le bout des doigts. Et voilà, je l'ai eu pendant un an, j'avais 19 ans, c'était un régal. Il était chambreur, on avait un jeu où à chaque fois que je ratais une relance, il me faisait une bouteille, et c'était un jeu de tête. C'était un jeu assez tonique et on faisait ça toutes les veilles de match. Et à chaque fois, il me disait une bouteille. Et à la fin, je lui avais apporté une bouteille de champagne. Il avait apprécié, quoi. On avait rigolé. Et non, c'est un monument. C'est un monument. Il suffit de voir les gens qui ont rendu hommage. Il a marqué le foot français. Il a fait basculer Saint-Étienne dans une dimension qui est la sienne aujourd'hui, quoi. Il a fait passer le statut du club à mythe, quoi. C'est ça. Et voilà, je pense que s'il y en a qu'un qui doit avoir une statue à Saint-Étienne, c'est lui, quoi.
Oui, j'allais venir, j'allais dire, il y a une statue qui est prévue. Pour toi, c'est logique, quoi. C'est...
Ah bah oui, c'est... Voilà, s'il y en a bien qui la mérite, c'est lui, quoi. Voilà, pour tout ce qu'il a apporté, il avait des réflexions, c'est quelqu'un qui avec Kurkovi qui a inventé les spécifiques gardiens, par exemple, quoi. C'était un précurseur dans tout. Voilà, c'est un grand, grand, grand monsieur, vraiment, quoi. Aussi bien que quand, après, il n'avait plus de responsabilité, qu'on se croisait au centre, quand il allait voir le doc. Moi, j'étais assez proche du doc de Monteil. Ça m'est déjà arrivé qu'il arrive dans le bureau, je dis je vais partir, puis ça me dit non, tu peux rester. Donc voilà, il venait voir Guy et voilà, ça discutait. Bah, t'es toujours intimidé quand t'es passé un tel personnage. un peu comme quand je rencontrais Giroud à Auxerre, mais voilà, ce sont des gens extrêmement compétents, mais en plus extrêmement simples. Et que tu peux les aborder et parler football avec eux pendant des heures. Quoi. C'est ce qui était exceptionnel avec des gars comme ça.
Du coup, on va se focaliser un petit peu plus d'abord sur Saint-Étienne, puis après un petit peu plus sur le poste de gardien de but, évidemment. Alors, c'est une question en trois. Quels sont tes plus beaux souvenirs alors, à Geoffroy Guichard, à l'ASS et à Saint-Étienne?
j'ai envie de dire, à Geoffroy Guichard, bah, pratiquement tous les matchs, en fait. En fait, tu vois, c'est plus un ensemble. Tu peux pas retirer un événement plus qu'un autre. Pour moi, c'est vraiment 15 années, enfin même plus que moi, je, avec le sens, ça fait 19 ans. Tu vois, je suis arrivé en 93 et je suis parti en 2012. Donc c'est plus un tout, pour un tout où la belle mon frère, bon, la montée avec Frédéric Antonetti, le fait du premier match d'Intertoto où l'Europe avait été Saint-Pierre avait été sevré d'Europe, et puis aussi il y a des victoires contre Marseille, contre Paris. Des matchs hyper importants, des matchs de communion avec le public, des matchs durs aussi où je me suis fait siffler. Moi, j'oublie pas qu'au début de ma carrière, je me suis aussi fait siffler à Geoffroy Guichard et que voilà, je me suis pas démonté et que j'ai réussi à retourner ça en ma faveur. C'est plus un tout, tu vois. J'ai pas envie de ressortir un moment parce que j'ai savouré et apprécié chaque moment et chaque moment, même les moments un peu plus difficiles, ont été une leçon qui m'ont servi plus tard en fait.
Ça, c'est à Geoffroy Guichard, et si on dit au club.
Voilà, pareil, j'ai envie de dire la longévité, les rencontres qui t'enrichissent. Quoi. Tu vois, le fait de. Voilà, on a traversé des bonnes périodes. Ce dont vraiment je suis le plus fier sur ma période titulaire, c'est que quand je rentre dans l'équipe et que Frédéric Antonetti m'intronise titulaire à 100%. On est 17e de Ligue 2. Et le jour où j'en sors après une blessure à Rennes à la 36e journée, on est 8e de Ligue 1. Quoi. C'est-à-dire qu'en 10 ans, tu as gagné 29 places. C'est-à-dire que tu attends le mois de septembre, là, tu prends le 17e de Ligue 2, et 10 ans après. Faut être 8e de Ligue 1, quoi. Pas donné à tout le monde. Hein.
Ah non.
J'étais pas tout seul, tu vois, mais trois fois, quand on dit ouais, le club il a pas progressé avec lui et tout, ouais, si tu estimes que gagner 29 places en 10 ans c'est pas progressé, chacun son avis, quoi. Tu vois.
Pour moi, t'es une des pierres de l'édifice, enfin, je veux dire, comme tu c'est dis, gentil, t'étais pas tout seul, mais si t'es resté aussi longtemps dans le club.
C'était souvent. Non, parce que des fois, tu peux dire des trucs, même si on sait qu'on est un métier on est soumis à la critique et c'est normal, tu vois. Moi, je suis tout le temps parti du principe que la personne qui paye son billet, elle est légitime à me critiquer. Moi, des fois, quand je vais au cinéma et que je sors, je dis putain, le film était pas terrible, l'acteur. C'est normal, j'ai payé mon billet, j'ai le droit de critiquer la prestation, comme quand quelqu'un le faisait. Mais tu vois, j'ai même le temps, il n'y a pas longtemps sur Twitter, je sais plus, il y avait un mec qui avait sorti un débat, Jeannot Ruffier, tu vois, comme je pense le mec il devait se faire chier, tu vois. Et un mec qui dit ouais, de toute façon, moi je choisis Ruffier parce que Jeannot, il n'a jamais joué à la Coupe d'Europe. Moi je réponds, je dis, le problème c'est pas que tu choisis Ruffier ou quoi, c'est chacun son avis. Je dis, mais comment tu peux dire que j'ai jamais joué à la Coupe d'Europe? Je dis donc, tu me juges alors que t'as pas vu mes matchs. Alors j'en ai joué 10 de match de Coupe d'Europe. Je dis toi, donc je dis tu juges et après c'est pas le fait que tu choisis ou quoi, mais quelque part des fois c'est frustrant d'être jugé par des mecs qui n'ont pas vu tes matchs. Quoi. Tu vois. Non mais attends, moi je pense franchement, sincèrement, moi je pense pas qu'il faut une expérience de haut niveau pour critiquer. Sinon regarde, alors là, je vais te dire un truc. Moi j'ai jamais été ministre. Donc je peux pas critiquer l'action du ministre. Tu vois, si t'es. Bah en fait, à un moment donné, quand tu fais un métier, bah t'es soumis à la critique. Mais moi, par exemple, regarde, c'est ce que je disais une fois dans France Foot. Tu vois, j'avais vu dans France Foot. J'avais eu un débat avec un journaliste, je tairais le nom. Je lui dis, ce que j'avais refusé une interview, je lui dis, ouais, je lui dis très bien une interview, je vais dire pourquoi. Je lui dirais à un moment donné, c'est un petit peu long, mais ça résume bien ce que je veux dire. Je lui dis, à un moment donné, Saint-Etienne était l'équipe qui prenait le plus de buts de la tête. C'était un fait. Donc, c'était moins dans le but. Et plusieurs fois, dans tes articles, tu mettais Saint-Etienne entre parenthèses, qui possède le gardien le plus petit de Ligue 1 et l'équipe qui prend le plus de buts de la tête. Je dis, il n'y a pas de problème. Ça, ça ne me dérange pas. C'était vrai. Et que tu mets... Je veux dire, sauf qu'après, on a fait un travail et il se trouve qu'un jour, je tombe sur une stat et les deux équipes qui prennent le moins de buts de la tête, c'est Brest et Saint-Etienne, avec Steve Elana dans les buts à Brest et moi à Saint-Etienne. Je dis, pourquoi tu ne mettais pas Saint-Etienne, entre parenthèses, qui possède le gardien le plus petit Ligue 1 et l'équipe qui prend moins de buts de la tête avec Brest. Je dis, ce qui est valable dans un sens, il doit l'être. Comme, et j'ai un deuxième exemple comme ça là-dessus, parce que j'en ai parlé dans mon livre, toujours en France Football. Chaque année, il faisait le gardien qui fait le plus d'arrêts dans la saison. Tu vois. Donc, 2007, ou 2008, c'est Landreau. 2009, c'est Duchesne. Et 2010, c'est moi. Sauf que moi, en 2010, j'étais pas le gardien qui avait fait le plus d'arrêts, j'étais le gardien qui a été le plus sollicité. Donc je lui dis, pourquoi tu dis pas les autres années, tu dis pas ça avec les autres gardiens? Parce que pour toi, en fait, si je suis le gardien qui a fait le plus d'arrêts, c'est pas parce que j'ai fait le plus d'arrêts, c'est parce que j'ai été le plus sollicité.
Ça me fait venir une nouvelle question, tu vois, j'avais pas noté celle-là, mais je la trouve intéressante parce que toi, en tant que gardien, cette stat... Pour moi, elle veut tout et rien dire. C'est-à-dire que tu peux l'interpréter de tellement de manières. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Bah après, ça, tu sais quoi? Je dis tout le temps, les statistiques, c'est comme les bikinis. Ça laisse entrevoir des choses, mais ça ne montre pas l'essentiel. Tu vois, moi, aujourd'hui, en tant que... Regarde, aujourd'hui, on a la meilleure défense. Et Jérôme Prieur est le gardien qui a fait le plus d'arrêts. Tu vois? C'est-à-dire que, généralement, y a une légende qui dit « Oh, il a pris beaucoup de buts ». Il a fait plus d'arrêts, mais il a pris beaucoup de buts. Là, non, on a la meilleure défense et il a fait le plus d'arrêts. Voilà. Donc, tu sais, j'avais aussi une fois, j'avais fait, il y a des corrélations, tu vois, par exemple, quand tu as un gardien avec un pourcentage d'arrêts élevé, généralement à côté, tu as une moyenne de points pour ton équipe élevée. Tu vois, j'avais trouvé que, par exemple, des gardiens qui faisaient au-dessus de 75% d'arrêts, beaucoup d'équipes prenaient 1,8, 1,9, voire presque 2 points par match. Tu vois, il y avait une corrélation entre le pourcentage d'arrêt et les points. Ou alors, et des fois, c'est pas vrai. Des fois, tu as ton gardien, ton équipe, elle domine tellement qu'il fait que 60% d'arrêt, pourtant elle est en tête et elle prend 2,5 points par match. Tu peux tout faire dire, mais à un moment donné, tu sais quoi? Je me suis aperçu d'un truc. Quand tu vois qu'un gardien, il n'est pas bon, bizarrement, ces stats, elles sont pas bonnes. Tu vois? Et à l'inverse, tu vois, à chaque fois que le gardien est bon, il a des bonnes stats, tu vois? Mais tu vois pas, par exemple, t'as pas un ressenti, tu te dis pas, putain, lui, il est moins bien. Et tu verras que quand tu te dis, lui, il est moins bien, tu t'apercevras qu'il a des moins bonnes stats. Tu comprends? C'est assez significatif. Alors, c'est vrai, des fois, le plus d'arrêt. Alors, après, quand tu fais le plus d'arrêts, c'est quand même significatif. Quoi. C'est-à-dire que tu es sollicité, que tu es bon, que tu peux pas toujours tout arrêter. Mais moi, c'est pas ma Bible, mais je m'en sers quand même de ces stats. Elles montrent des choses, elles démontrent des choses sur la forme du moment, sur plein de trucs. Gardien qui a un pourcentage de ballons hein, au pied raté, tu vois. À un moment donné, ça parle quand même, quoi. C'est quand même significatif. C'est pas la vérité absolue, parce que la vérité absolue, c'est quoi? À un moment donné, c'est décisif ou t'es pas décisif. Voilà. Ça, c'est la vérité absolue. Tu peux avoir de très bonnes stats et pas forcément être un gardien décisif. Tu comprends?
Oui, bien sûr. Et à travers ces stats, souvent on dit, tiens, ce soir, tel gardien, il nous a ramené les 3 points.
Ça, je vais te dire un truc. Eh, ça, c'est du pipeau absolu. Parce que déjà, un gardien, il marque pas de but. Tu vois, attention, on l'a dit sûrement, hein. Ah, il rapporte 15 points par saison. Ça, c'est des conneries. Enfin, tu peux pas le mesurer. Mais ce que tu peux mesurer, par exemple, tu vois, moi, je prends cette année, Jérôme Prieur, il a fait une grande saison. Pourquoi? Il nous a tout le temps maintenu dans le match. C'est-à-dire qu'il a fait des arrêts à 0-0, ou quand on menait 1-0, tu vois, des arrêts pas forcément spectaculaires, mais voilà, des arrêts décisifs. Ou alors, je prends tout le temps cet exemple du match de Rodez. On est mené 1-0, puis on a un trou. Pendant 20 minutes, on est bombardé. Et Jérôme sort tous. Et à la 90e, on égalise. eh ben, ton gardien, il t'a pas fait gagner un point. Mais il t'a maintenu dans le match pour que tu ramènes un point. Tu vois ? C'est ça. Et ça, par contre, t'as des gardiens, c'est vrai, ils le font très très bien. C'est des gardiens, ils sont réputés pour ça. C'est pas les plus spectaculaires, mais ils sont solides et ils font les arrêts quand il faut.
Et là, ce que tu dis, c'est vrai, parce que dire qu'un gardien a apporté X points, c'est très compliqué. Enfin, c'est pas mesurable, c'est pas quantifiable, comme tu le dis. Ouais. Et en même temps, je pense qu'il faut savoir les lire, les stats, et pas forcément comme ça nous arrange, quoi. Comme tu le disais un petit peu par rapport aux journalistes de France Football, qui prenaient les stats comme ça l'arrangeait lui, quoi.
Moi, j'ai envie de te dire, les stats, c'est quand même beaucoup plus significatif que les notes, quoi.
Ah bah oui, bien sûr, les notes. Parfois, on a beaucoup de mal à comprendre les notes de l'équipe. Hein. Bon, mais c'est débat intéressant sur les stats, parce que on s'en sert pour tout et n'importe quoi, et finalement, je trouve qu'elles sont souvent très mal utilisées.
Ouais, mais par contre, je pense que voilà, elles peuvent t'aider aussi à voir, pas tout, mais à voir des choses.
Je suis pas étonné que tu t'en serves au quotidien, parce qu'aujourd'hui, ça reste un outil. En plus, vos joueurs, comme tu le disais tout à l'heure, ils ont des puces. Ça vous permet d'avoir un certain nombre de stats qui remontent, et ce serait con de pas utiliser ces stats-là, justement. Quoi.
Non, tu vois, par exemple, les stats, t'as des mecs qui provoquent le plus de cartons. Tu vas dire, c'est le stat. Mais tu t'aperçois que c'est le mec qui fait le plus de sprints à haute intensité. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est tout le temps en train de courir vers l'avant. Et bien au final, il fait quoi? Il provoque des fautes. Tu vois?
Il y a toujours une corrélation entre.
Voilà, quand tu analyses le truc.
Entre une qualité du joueur et une stat qui vient derrière. Quoi.
Voilà. Et bien c'est pareil chez les gardiens. Et toi, t'as des gardiens, ils s'imposent dans les airs, ils prennent beaucoup de ballons. Puis tu t'aperçois que c'est les gardiens qui prennent le moins de buts sur coup de pied arrêté. Il y a souvent. Voilà. Après, voilà, je te dis, c'est pas une vérité absolue, mais faut quand même. Moi, je fais partie de ceux qui les analysent et qui les utilisent. Voilà.
Est-ce que tu as une stat en particulier qui t'évoque tout de suite quelque chose, en fait?
Alors, il y a le pourcentage d'arrêt. En fait, ce que je fais, par exemple, quand je regarde un gardien adverse, je regarde son nombre de buts encaissés, ses arrêts, tu vois. Après, tu regardes la qualité de ses arrêts et le moment où il y a les arrêts, quoi, tu vois. S'il y a déjà 2-0 pour l'équipe ou s'il y a 0-0. Après, voilà, tu regardes le pourcentage d'arrêts sur une ou plusieurs saisons. Et, ou alors, des fois, ça te donne aussi la forme du moment, quoi. Tu vois, si t'as un gardien qui est tout le temps à 75% et qui, depuis 2 mois, est à 60%, tu vois, tu peux te dire aussi, il est peut-être pas dans sa meilleure forme, quoi. C'est comme ça. Tu vois, voilà, ça veut pas dire, après, peut-être savoir, il est blessé, ou peut-être aussi, la défense, elle change devant lui, tu vois. Ça aussi, c'est savoir interpréter. Des fois, ton gardien a des moins bonnes stats parce que si la défense a des moins bonnes stats, tu vois, ça va de pair souvent. C'est comme ça que j'essaie de regarder. Et après, je te dis, moi, quand j'analyse un gardien, je regarde les derniers matchs et surtout, je regarde les matchs en entier, quoi. Parce que tu vois, il y a des choses que, des fois, sur des ballons en profondeur, il n'y va pas. C'est pas pris en compte dans des stats, dans aucune stat. Et pour moi, c'est vachement significatif. Ou alors, le mec, il sort et il dégage en touche. Et ben, la stat, c'est un ballon perdu. Tu vois? Sauf que moi, je vais l'interpréter comme quoi c'est un ballon gagné. Tu comprends?
On disait tout à l'heure, c'est vraiment une façon différente d'analyser, voilà. Et d'interpréter des stats.
Moi, je pense qu'il faut, tu sais quoi? Il faut regarder les stats et surtout les analyser en regardant les matchs, quoi. Surtout. Et pas ouvrir le journal et dire. Ah putain, j'ai vu que la stat allait un tel, il est bon ou il est pas bon. Tu vois,
c'est
pas comme ça.
Et ton plus beau souvenir à Saint-Té, du coup, alors en dehors de Geoffroy Guichard, de l'ASS, ton plus beau souvenir à Saint-Té?
C'est la naissance de mes enfants. La naissance de les trois Stéphanois. Ça reste. Voilà, je pense qu'à part ça, tu peux rien avoir de plus beau, quoi. Alors tu fumes de la bonne, donne-moi l'adresse de ton dealer.
En dehors des enfants, parce que les enfants, on a tous envie de répondre nos enfants, on est d'accord.
Après, j'aime bien la vie stéphanoise. Je pense tu vois, là, je pense sincèrement que je vais faire comme beaucoup de gens qui sont passés par la Saint-Etienne. Je vais... En plus, moi, je suis resté très longtemps. Je pense que je vais finir ma vie à Saint-Etienne, quoi. Tu vois, là, je pense qu'il y a de... Il y a de fortes chances. Après, j'ai juste remarqué un truc. J'ai juste remarqué un truc, c'est tout ce que j'ai prévu. À la fin de ma carrière, il n'y a rien qui se réalise. C'est un truc de fou. Donc, voilà, et je vois que je bouge de club en club. On verra où le vent m'amènera, où le vent me portera. Aujourd'hui, j'ai pas de plan de carrière. Tu vois, je suis parti avec Francis Giraud à Auxerre. Je m'entendais super bien. Ensuite, j'ai un coup de fil du coach Guégan. Voilà, qui me propose Valenciennes, j'ai foncé tout de suite. Voilà, je suis pas dans le calcul.
Valenciennes, c'est aussi le coup de cœur, en fait, je veux dire.
Ah oui.
On sait tous d'où tu viens, donc.
Franchement, je me dis, tu vois, c'est tout con. Je suis avec Fantôme Chamazel. Je suis au milieu de la forêt, je savais même pas que mon portable est capté. Ça sonne. Bon, je l'avais dans mon répertoire, Olivier Guégan. Je dis putain, je décroche, bam, on discute. Voilà, deux jours après, j'étais sur la route.
Pour toi, c'est un vrai coup de cœur. Enfin, ça se discute voilà. Même pas, quoi.
Des fois, le hasard fait bien les choses, quoi. Parce que là c'est ce qui est énorme. C'est ce que j'aime bien. Je rencontre plein de personnes, tu sais, que quand j'étais petit,
c'est
prof, tu vois. Parce que c'est petit, Valenciennes, quand même.
Ah bah oui, j'y suis allé deux, trois fois pour le Jorky, justement. C'est pas très grand.
Non, c'est marrant, quoi. Tu m'éclates bien.
Tu me dis, j'ai pas de plan de carrière, etc. C'était une question que j'avais pas prévue. Et avec Saint-Etienne, il n'y avait pas un plan d'après-carrière, justement
Si, on l'avait évoqué. J'ai intégré le centre. Après, j'ai eu une opportunité d'aller chez les pros à Auxerre. Donc, je suis parti à Auxerre. Après, on verra un jour si ça se fait avec Saint-Etienne ou si ça se fera pas. Tu vois, c'est-à-dire que moi, je pars pas du principe de dire comme j'étais un ancien, je mérite quoi que ce soit. Non, si un jour on estime... Tu sais, je sais comment ça marche, les staffs, maintenant. Les staffs, il faut travailler avec quelqu'un à qui tu as confiance. C'est-à-dire que si un jour je viens à Saint-Etienne, c'est parce que je viendrai avec un entraîneur ou un entraîneur me voudra parce qu'il a travaillé avec moi. C'est comme ça que ça marche. Ça marche pas.
Oui, on le voit souvent. Ouais. Hein. Il y a un entraîneur qui arrive, il arrive entre guillemets avec sa clique.
Avec un adjoint et tout. Mais tu sais pourquoi? Parce que tout simplement, un entraîneur, il a une façon de travailler. Et quand il vient avec ses adjoints, il gagne du temps. Parce que nous, tu sais, la denrée la plus difficile pour un entraîneur, c'est le temps.
Ouais.
On sait qu'on a un laps de temps limité. Et chaque, j'ai envie de dire, chaque temps de gagner, c'est ce qui nous permet d'avancer le plus vite possible pour mettre des choses en place, quoi. Donc, généralement, quelqu'un avec son staff, c'est pour gagner du temps, quoi. C'est pas pour dire je veux pas travailler avec lui ou je veux virer lui et tout, mais c'est que le temps que tu t'accommodes à un mode de fonctionnement avec un nouveau coach, ça peut être préjudiciable. Des fois, ça marche, hein. Des fois, il n'y a pas de vérité. Mais souvent, on sait qu'on gagne plus de temps, quoi.
Alors, maintenant, on va parler on va rentrer un petit peu plus dans le poste de gardien de but. Et on va commencer par un sujet chaud à Saint-Etienne, la RUF. Alors déjà, avant de parler de ce qui s'est passé courant de la saison et puis de ce qui vient de se passer là avec Jesse, déjà toi, tu l'as un petit peu côtoyé. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Quelles étaient vos relations? Si tu peux nous en dire aussi un petit peu plus sur son caractère, parce qu'on a, nous, de l'extérieur, on a l'impression de quelqu'un de très froid.
Moi, quand il est arrivé, j'ai envie de dire, il n'y avait pas de débat. J'avais 30, j'allais sur 35, lui, je crois, il allait sur 25. Il était néo-international, il était en pleine possession de ses moyens, il était en pleine ascension. C'est le gardien le plus fort avec qui j'ai travaillé. Il s'est tout de suite imposé, il n'y a pas de souci. Après, au niveau caractère, c'est quelqu'un qui... Non, qui n'est pas froid, mais qui... voilà, qui est là pour faire son boulot et rien d'autre, quoi. Voilà, il est comme ça, c'est sa nature. Il était comme ça quand il est arrivé. Après, voilà, il s'est imposé. Après, je sais où on va en venir sur ça, mais moi, je pars du principe, quoi, en plus, quand j'ai eu Olivier Guégan, parce que, en fait, nous, en Valenciennes, quand on donne une interview, il faut avoir l'accord du coach. Donc, moi, je te l'avais dit avant, mais alors, en fait, moi, je peux pas parler du choix, tu vois. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que, en tant que membre d'un staff technique, tu vois, si demain, je donnais mon avis, déjà, Olivier Guégan va me dire, mais tu te prends pour qui, toi? T'es comme ça Valenciennes et tu te permets d'analyser la situation des gardiens de Saint-Etienne. Et déontologiquement, vis-à-vis de Fabrice Grange, avec qui j'ai travaillé, et aussi pour Claude Puel, Jackie Bonnevé et Julien Sablé, ça serait totalement déplacé qu'un membre du staff de Valenciennes porte un regard sur la gestion des gardiens de but à Saint-Etienne. Tu vois, c'est comme si demain, et je sais qu'il aurait la même réflexion que moi, on appelait Fabrice Grange pour analyser des choses sur Jérôme Prior. Il ferait pareil sur Nico Lac aussi. Et moi, après, tu vois, ça c'est sur mon truc. Moi, le seul truc, tu vois, c'est que là, en tant que supporter des Verts, il n'y a qu'un seul truc qui me dérange, tu vois, c'est que j'ai vu 2-3 articles fleurir où des gens commentaient cette décision et sous prétexte qu'ils aiment bien Stéphane, et ils fracassent Jesse, ou sous prétexte qu'ils aiment bien Jesse, ils fracassent Stéphane. Tu vois ce que je veux dire, moi
il y a un parti pris, ouais.
Voilà, je me dis comme ça. Moi, en tant que supporter des Verts, et en tant que vrai supporter des Verts, je sais que la cage, elle sera bien gardée. Et que cette année, par exemple, ou les années précédentes, quand je voyais Rue faire des gros matchs, j'étais très très heureux. Quand Jesse faisait des gros matchs, j'étais très très heureux. Et là, demain, je leur souhaite le meilleur possible. Que Jess, apparemment le coach a choisi Jess numéro 1, je lui souhaite bonne chance et qu'il s'éclate enfin, après des années, qu'il s'éclate enfin en tant que numéro 1, et que si demain Stéphane retrouve sa place, je lui souhaite le meilleur. Tu vois, ça, j'ai aucun problème à le dire, parce que c'est en toute sincérité. Tu vois, et tu vois, par exemple, ça me dérange de dire, sous prétexte que t'aimes bien Stéphane, et tu vas dénigrer Jesse. Et sous prétexte que t'aimes bien Jesse, tu vas dénigrer, c'est pas ça. Quand t'es supporter, tu supportes ton gardien, quel qu'il soit, quoi.
Bien sûr.
Après, il y a un coach qui fait des choix, il y a un staff qui fait des choix. Après, t'as vu, on est aussi dans la culture du buzz. La culture du buzz, il faut trouver. Voilà. Après, c'était sûr que quand tu changes de gardien dans n'importe quel club, ça fait du bruit. Dans n'importe quel club. C'est comme ça. Mais par contre, moi, je peux pas porter un jugement en tant qu'entraîneur de Valenciennes sur ça, quoi. Tu vois. Aujourd'hui, je travaillerai à la télévision ou à la radio, je le ferai. Mais si je connais les deux. C'est deux très bons gardiens et que l'année prochaine les buts seront bien gardés, quoi. J'ai envie de dire, c'est le principal.
Mais de toute façon, Jess, on y reviendra après. Je voulais d'abord passer sur la jeunesse stéphanoise que tu dois connaître. Je parle de Guendouz et de Bajic. Je voulais savoir un petit peu, toi tu les as connus, ce que tu en penses. Est-ce que tu penses qu'ils ont qu'ils vont avoir la chance de percer, parce qu'on en reparlera après, mais Jess, il vient d'avoir 34 ans début janvier, c'est de moins en moins jeune. On a Guendouz, on a Bajic. Tu les connais? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux?
Alors déjà, Alexis Guendouz, quand j'étais avec Laurent Batless en réserve, je l'ai eu plusieurs fois. C'est un gardien qui physiquement ressemble à Stéphane, grand, costaud, athlétique, qui vient de faire deux très grosses saisons à Pau, en national. Il a fait une première très bonne saison, il a confirmé sur la deuxième. Partout où j'ai été, j'ai eu que des bons échos sur lui. Même si je vous avoue que je n'ai pas. J'ai vu quelques images. Hein. J'ai vu quelques images, mais j'ai pas tout vu de lui. Moi, c'est. À partir du moment où vous jouez et que vous êtes performant, même en national, ça dénote que vous avez des qualités. Et que vous pouvez me présente. Je pense que ça lui a fait du bien. Ça lui a fait du bien de partir, de quitter un peu le cocon. C'est un pur stéphanois, lui aussi. De quitter le cocon et de d'aller voir ailleurs. Je pense que ça lui a fait du bien. Après, derrière, Belgique, c'est la grosse cote. Voilà, toujours en avance en équipe de jeunes, en équipe de France, qui a toutes les qualités pour réussir. Mais j'ai envie de dire, il est jeune encore. Il est jeune, il a plein de choses à découvrir. Et c'est vraiment quelqu'un... Moi, j'ai vu faire des matchs en jeune exceptionnel. Hein. C'est un gros bosseur, c'est quelqu'un qui sait où il veut aller, quelqu'un de très rigide, voilà, qui a une éducation un peu militaire et ça se ressent. Il a tout pour réussir. Après, j'ai envie de dire, ils ont leur destin entre leurs mains, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont avoir leur chance à eux de la saisir, quoi. L'année dernière, le match de Bage, en gros, il a fait ce qu'il avait à faire, voilà. Son complexe, tu vois, il a fait son match.
Il s'en est bien sorti.
Voilà, il a goûté, il a vu ce que c'était le haut niveau. Il a de la chance d'avoir deux excellents gardiens devant lui. À lui de s'en inspirer, de voir le travail. Et après, de toute façon, à un moment donné, il aura sa chance à lui de la saisir. C'est comme ça, le haut niveau, c'est comme ça. Il y en a, ils ont 10 chances pour réussir. Il y en a, ils en ont 5. Puis il y en a, ils en ont qu'une. Tu vois, à saisir. Tu vois, c'est comme ça. C'est Fred Antonetti qui disait ça. Et voilà, vous avez tous à un moment donné votre chance, à vous de savoir la saisir.
Et on va revenir justement à Jess, que tu as, bon, on l'a dit un peu plus tôt dans l'interview, il a été intronisé par Puel numéro 1 dans la semaine. Je pense que c'est une façon de pousser Ruffier vers la sortie. Enfin, c'est un message pour moi. Mais toi, du coup, Moulin, 34 ans, il a fait toute sa vie à Saint-Étienne. T'en penses quoi? Tu le vois comment? Si demain ça se réalise, et je lui souhaite parce que j'adore aussi Jess. Toi, t'en penses quoi? Comment tu vois le truc?
Moi, je vois le truc, c'est un gardien qui n'a jamais déçu. C'est-à-dire qu'il est rentré dans des matchs, dans des situations compliquées. Il a toujours performé. Il a toujours performé. Donc, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, je vois pas, jusqu'à preuve du contraire, ce qui pourrait être un frein. Après, il y aura la vérité du terrain, c'est tout. Hein, il y aura la vérité du terrain, mais aujourd'hui, c'est pas comme si tu. C'était un total inconnu, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Ben, complètement. Ouais. Ouais, il a déjà prouvé. Hein.
Voilà, il a aujourd'hui, il a toujours bien fait ce qu'il a eu à faire. Donc, un, je ne vois pas pourquoi ça ne continuerait pas, tu vois. Et deux, une fois plus, il y aura la vérité du terrain. C'est tout. Après, je pense aussi, c'est une manière aussi de dire à Jesse, prépare-toi sereinement, voilà. Il a établi une hiérarchie, voilà, c'est comme ça. Mais j'ai envie de dire, c'est comme je disais tout à l'heure, quoi. C'est pas parce que tu apprécies l'un qu'il faut dénigrer l'autre. Laissons la vérité du terrain s'exprimer, tout simplement.
Est-ce que, si on voulait essayer de suivre une espèce de logique, Jess reste numéro 1, Ruff part, est-ce que, entre guillemets, par défaut, j'ai envie de dire, plus que par défaut même, par mérite, est-ce que ce ne serait pas l'occasion pour Guendouz de devenir numéro 2?
Ça, la seule chose dont je suis sûr, c'est que je suis sûr que le staff a déjà réfléchi à toutes les éventualités.
Alors justement, parlons toujours de relève. On a aussi entendu parler de Bernardoni à Saint-Étienne. Toi, ce gardien, il est encore jeune malgré sa coupe de cheveux. Toi, t'en penses quoi de ce gardien?
Tu sais, aujourd'hui, on va pouvoir faire le débat, on va pouvoir sortir 150 gardiens. Dire lui il peut venir et lui il peut venir ou moi je verrai bien lui. Le problème, c'est le fait qu'il y ait, parce que Saint-Étienne, c'est un club à pression et tout le monde ne performe pas sous la pression. Donc demain on va pouvoir parler de n'importe qui, de Bernardoni, de Larsonneur, de Mike Maignan,
de Prior, pourquoi pas
de Prior, toi on peut parler de le maillot, il est lourd à porter. C'est pas donné à n'importe qui. Et on peut spéculer aujourd'hui. On peut dire, ah tiens, on va prendre lui, il va s'imposer. Mais tu sais, regarde, je vais te prendre un exemple qu'on a bien connu. Tout le temps où je commence à jouer, tout le monde disait, à Saint-Thé, faut prendre Matsui, faut prendre Matsui, faut prendre Matsui. Tu te rappelles?
Ah oui.
Pendant 3-4 saisons, on avait ça, faut prendre Matsui, faut prendre Matsui. Et la même année, il y a Geoffrey Vernis qui arrive. Tu vois? Geoffrey Vernis. Tu as Geoffrey, top joueur, les deux. Mais pourtant, ce sont deux très bons joueurs. Mais si 2-3 ans avant, on dit, on va prendre Geoffrey Vernis à la place de Matsui, tous les forums, les sites internet et tout, auraient dit, mais faut pas décoller, et Matsui, et ceci, et cela. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Qui s'est imposé? C'est Geoffrey. Tu vois, c'est, à un moment donné, il y a la spéculation de dire, si on prend lui, on va franchir un palier. Si on prend lui, il va marquer 35 buts. Si on prend lui, il va tout à fait. Mais ça, c'est... voilà, c'est comment ça? C'est de la spéculation. C'est... tu peux pas dire on va remplacer un tel par un tel. Déjà, la personne qui est partie, tu veux remplacer qui? Voilà, je reprends souvent, mais bon, il m'a marqué, le frère d'Antonetti. C'est du foot fiction. On va se faire une interview de foot fiction, alors on va pour. Mais je préfère te dire des choses concrètes, peut-être des choses qui vont pas plaire aux gens qui vont lire, mais je préfère. En plus, je préfère te dire que nous, on raisonne dans un staff. Tu vois, nous, dans un staff, nous aussi, on lit des choses. Ah, lui va arriver. Mais tu sais que nous, on se casse pas la tête avec ça. On a tellement de choses à gérer avec nos joueurs, nos entraînements, nos blessés, nos suspendus, l'adversaire. Tu vois, franchement, on n'a pas le temps, quoi. Et on laisse ça, des fois même, on laisse un peu les gens grignoter là-dessus parce que ça nous met la paix sur un autre dossier.
Mais si on parle juste qualité de Bernard Denis, enfin, on a entendu dire aussi qu'il n'était pas loin des portes de l'équipe de France, donc ça reste quand même un gardien à haut potentiel.
Oui, mais parce que c'est un jeune gardien qui joue depuis pas mal de temps. Après, y a toujours eu des très bons gardiens en France. Hein.
Ah, mais c'est une spécialité. Hein.
Voilà, il y a une très bonne école de gardiens en France. Et voilà, quand vous regardez chaque week-end... Moi, à Lille, je vais tout le temps à Lille. Moi, je me suis régalé avec Mike Maignan. Qui est très très jeune, qui est très fort. Vous avez plein. Vous avez des gardiens sur le marché, vous en avez. Mais après, est-ce qu'ils vont performer chez toi? C'est autre chose. C'est un autre débat. Quoi. Après, je te dis tout le temps, c'est la vérité du terrain qui parle.
Une dernière question, on a Claude Puel qui est arrivé à Saint-Thé. Bah déjà, est-ce que tu le connais?
Comme adversaire, ouais, je connais de pas personnellement, mais je le connais de réputation ou d'amis en commun, quoi.
Et t'en penses quoi de ce coach?
C'est simple, il a réussi partout. Voilà, il a réussi partout, il suffit de voir à Lille ce qu'il a fait à Lille, ce qu'il a fait à Nice.
C'est un vrai performeur, hein. Enfin, moi, voilà. En tout cas, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui.
Quand tu vois aujourd'hui la liste des jeunes qu'il a sortis, tu dis respect, qu'est-ce que je veux dire de plus, sérieusement? Là, tu sais de quoi on parle? Là, on parle pas de fiction, on parle de vérité du terrain, tu vois? Abidal, Adil Rami, tu vois, à chaque fois, c'est... Et il en a fait un paquet, mais des coups comme ça, c'est pas du hasard, hein. Tu vois, quand il a pris le LOSC, et ce qu'est le LOSC aujourd'hui, Nice, pareil. Non.
Oui, il a toujours laissé les... En plus, quand il est parti, il a toujours laissé les clubs dans une situation plutôt très positive.
Exactement.
Toujours pour rester un peu sur Saint-Thé, toi, comment tu vois un peu l'intersaison pour Saint-Thé? À ton avis, avec la saison qu'on vient de vivre, avec cette saison... à moitié terminé et puis une saison en grosse demi-teinte pour Saint-Thé. Comment tu vois l'avenir de Saint-Thé dans le championnat de France l'année prochaine?
Tu vois, là j'ai envie de dire que c'est comme nous en scène, c'est l'inconnu post-Covid, quoi. On ne sait pas comment les joueurs vont... Parce qu'on parle quand même de plusieurs mois d'arrêt, tu vois, donc... il y a peut-être des équipes qui vont carburer très très fort en début de championnat, qui vont s'essouffler. On ne sait pas aussi, est-ce que ça va être des années à plus ou moins de blessures. Il y a quand même pas mal d'inconnus que le terrain va révéler, mais voilà, il y a quand même plusieurs questions. Parce que si tu rejoues en août, tu te seras arrêté quand même mars, avril, mai, juin, juillet. On parle presque de 5 mois d'arrêt, quoi. Tu vois. Donc,
les blessures font peur avec un tel arrêt.
On a de la chance d'avoir dans tous les clubs des préparateurs physiques et des staffs médicaux au top. Donc, les mecs seront bien préparés. Maintenant, le corps, comment le corps va réagir, voilà, c'est une des inconnues. Tu vois, il y a plein de questions qui vont nous arriver comme ça. Tu vois, j'ai regardé hier les matchs en Allemagne. Franchement, le rythme, c'était pas terrible. Hein, tu regardes. Alors, toujours pareil. Je me dis, est-ce que c'est le match qui n'était pas rythmé ou c'est le fait de regarder un match sans spectateur? Parce que là, pareil, j'ai pas les données GPS, tout ça. Peut-être que, tu vois, tu vas regarder les données GPS, puis tu vas dire, bah, en fait, le mec, il a fait le même nombre de courses que... Mais je sais pas, le fait de regarder un match sans spectateur, j'avais l'impression de...
J'avais l'impression que c'est un peu lent, ouais.
Encore deux petites questions. La première sur notre duo de présidents.
Tu sais, moi j'aimerais une analyse très très simple. Moi, Galazzo, Romillet, ils m'ont rempli mon frigo. Tu vois ? Et j'ai l'habitude de dire, je ne mords pas la main de ceux qui m'ont nourri. Et donc, aujourd'hui, il y en a plein qui s'élèvent. Ben moi aussi c'est simple, ceux qui sont pas contents, ils font un chèque et ils rachètent le club. Le club leur appartient, c'est des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, mais le centre de formation, il produit, il forme des joueurs, et il est pas dans... Et c'est pas un truc qui est dans un état de délabrement. Tu vois, quand tu vas à l'étranger, c'est quand même top. Le club, il y a un sondage qui vient de sortir, c'est le club préféré où les Français ont une image à 79% du club. Donc, on pourra toujours regarder les 2-3 trucs qui ne fonctionnent pas, mais il y a quand même un tas de trucs qui fonctionnent. Donc après, moi, en plus, je suis pas au club, hein. C'est-à-dire que je ne suis pas la lèche pour une augmentation et je suis sous contrat, je ne cherche pas à venir. C'est ce que je veux dire. Je dis vraiment ce que je pense. C'est que voilà, ils ont fait beaucoup de positifs, ils ont aussi fait des choses négatives, mais en même temps, ça fait combien de temps qu'ils sont au club? Quand t'es longtemps dans un club, à la fin, à un moment donné, on voit que t'es défauts, tes qualités. Moi, j'ai connu des clubs où t'allais à la BMCG, tu serrais les fesses deux jours avant. Voilà, le rôle des dirigeants, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, bon, il y a eu une Coupe de la Ligue, il y a eu l'Europe. T'as vibré, t'as des stats de points, t'as une institution qui est forte. Voilà. Après qu'il y ait des tensions et tout, comme dans tous les clubs. Hein. Dans tous les clubs, voilà, c'est comme ça. Mais moi, je dis sincèrement ce que je pense. Et en plus, ils m'ont nourri. Ils m'ont nourri. Et donc, moi, j'ai dit des choses quand j'étais au club, tu vois. Pas dit après. Et je me dis, je pars du principe que eh ben, ce que tu n'as pas dit pendant que tu étais joueur, eh ben, tu fermes ta gueule et tu le gardes pour toi quand tu ne l'es plus. Parce que si aujourd'hui j'ai pu jouir d'un confort de vie au-dessus de la normale, c'est beaucoup grâce à Romillet et à Galazzo qui m'ont signé mes chèques à chaque fois de moi. Pour ne pas l'oublier. Des fois, sincèrement, des fois j'entends parler quand ça parle sur lui. Pourtant, je ne suis pas leur avocat. Ils n'ont pas besoin de moi pour se défendre. Pourquoi ? Parce que moi, je suis pas fou, hein. Je suis pas leur avocat tout. Mais quand t'entends parler des trucs, t'as l'impression que t'arrives à la Saint-Etienne, c'est un club de PHR avec les deux dirigeants à la buvette en train de se servir à Ricard. Faut pas déconner non plus. Par contre, c'est souvent le lot des clubs populaires. C'est aussi ce qui fait le charme de ce club, quoi. C'est que la Saint-Etienne, c'est un sujet de débat permanent et journalier, quoi. Donc, à un moment donné, voilà, c'est aussi le lot des clubs populaires, c'est aussi ce qui fait la beauté de ce club, quoi. Faut que tu aies tout le temps quelque chose à raconter ou à dire.
Ok, et puis dernière petite question sur Twitter, ce petit jeu, tu peux nous expliquer un peu comment ça a commencé, comment c'est parti, et puis surtout, est-ce que c'est quelque chose qui vous a rapproché avec Pat, ou alors vous êtes toujours resté en super bon contact et c'était quelque chose de naturel en fait?
Non, on est toujours resté en très très bon contact, parce que Pat c'est quelqu'un que j'adore, qui est très intelligent, très brillant, il suffit de voir ses analyses pour la Bundesliga, il a aussi fait beaucoup de choses sur le protocole de reprise, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui j'ai beaucoup de discussions, pas seulement sur le football, dans la vie aussi, et puis on se taquinait sur Twitter, puis un jour il y en a un ou deux, alors lui il dit que c'est lui, moi je dis que c'est moi, j'ai sorti une petite vidéo, et puis j'en ai sorti une deuxième, et puis une troisième, et puis il faut savoir qu'on a quand même des vidéos qui ont fait 700 000 vues, et qu'il y a des gens, même des gens très connus, des députés, qui disent pareil que toi, quoi. On a hâte de voir le prochain truc, et des fois je reçois un texto, tu vas rigoler tout à l'heure, ou c'est énorme ce qui t'attend, tu vois. On rigole, mais par contre, c'est ce qu'on faisait dans le vestiaire, quoi. Dans le vestiaire, on chambrait de la même manière, avec le même esprit satirique, j'ai envie de dire. Et là, on l'a matérialisé sur Twitter, quoi. C'est ça qui est bien. Et tu vois, c'est spontané, c'est-à-dire que des fois, tu vois, par exemple, le jour de match, on ne s'attaque pas, tu vois, quand j'ai match ou quoi. Et après, le lendemain, si c'est propice, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais on rigole bien, mais surtout, on ne pensait pas que ça allait faire autant de buzz. Et on continue parce que ça nous fait rire, quoi, et apparemment ça fait rire beaucoup.
C'est un bon moyen aussi de rester en contact quelque part finalement, parce que...
Ah oui, bien sûr. C'est ça, des fois je dis tu t'attends pas et boum, il y a un tweet qui tombe. Là, tu dis quoi, puis tu fais rire, quoi. Tu vois, ça m'est déjà arrivé de me trouver dans des situations où j'éclate de rire et les gens se retournent vers moi, quoi. Ils savent pas pourquoi je rigole, mais... C'est parce que je viens de voir un truc qui m'a fait super marrer, quoi, tu vois.
Bon, bah écoute, Jérém, merci de ton temps, Jérém. Et puis, j'espère que vous allez vite reprendre la saison et que tu vas continuer à t'éclater dans ce poste de coach.
Ouais, pas de soucis.